invités, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver dans ces portraits d'Isère jusqu'à 14h. Mon invité aujourd'hui, ancien maître d'école, ancien directeur d'école également, aujourd'hui à la retraite, une retraite qu'il occupe au quotidien entre ses activités de militant près de la Maïf, mais aussi ses activités d'auteur. Il a à son actif 6 livres, un 7e en route d'ailleurs, avec Jean Brouillat, on vit à 100 à l'heure du matin au soir. À 69 ans, mon invité est à l'aise dans ses baskets et jusqu'à 14h. Pour une fois, on va se la jouer cool.
Jusqu'à 14h, les portraits de l'Isère.
Bonjour et bienvenue Jean Brouillat.
Bonjour.
Ça vous a un petit peu sourire ce que j'étais en train de dire ?
Ça faisait un petit peu sourire parce que 100 km à l'heure avec les limitations de vitesse qui sont annoncées et les mesures qui seront vraisemblablement prises par rapport à un certain nombre de choses, c'est vrai que ça, oui, c'est un petit clin d'œil mais j'apprécie.
Vous ne vivez pas à 100 à l'heure ?
Parfois si, même au-delà.
Ah, si, hein, même au-delà d'ailleurs.
Ouais. Hein. Mais j'aime bien aussi lever le pied.
Lever le pied ?
Oui,
vous êtes, vous êtes à la retraite depuis combien d'années ?
Ça va faire une dizaine d'années maintenant, donc ça passe très très vite, ouais. 10 ans dans une vie.
Vous avez l'impression que vous travaillez moins depuis que vous êtes à la retraite ou vous travaillez plus ?
Je vais dire autant, mais pas de la même façon.
Pas de la même façon. On va y revenir dans quelques instants. Je voudrais qu'on parle avant, qu'on remonte un petit peu le temps. Vous êtes un ancien maître d'école, ancien directeur d'école. C'est pas forcément un métier qui était destiné pour vous, hein.
Non, parce que au départ, quand j'étais plus jeune, je souhaitais être ingénieur. Après, la vie a fait que je n'ai pas suivi ce chemin. Et finalement, réflexion faite et avec le recul, je ne m'en porte pas plus mal, bien au contraire.
Vous me disiez, lorsqu'on préparait cette émission, je ne sais pas si vous en souvenez, vous allez certainement sourire, on est sur un quai de gare, il y a un train qui passe, on monte dans le train, je ne sais pas pourquoi je suis monté dans celui-là.
C'est un peu ça. Je crois que, puis des trains, on en a un peu toute la vie, des gares aussi, donc on a un certain nombre de quais, et puis un jour on se trouve, c'est le fait du hasard, c'est la rencontre, c'est le besoin de se déplacer, de voyager, d'aller vers l'autre, enfin bon, tout ça. Donc monter dans un train, il faut quand même regarder un peu quels sont les wagons, quelle est la composition de ce train.
Vous n'avez pas de regrets finalement ?
Non, pas du tout.
Vous devenez donc maître d'école pendant combien d'années ?
Alors, maître d'école, ça peut paraître un peu désuet comme terme aujourd'hui.
Pourquoi ?
Tout simplement parce qu'il y a peut-être quelque chose de suranné dans cette expression. Mais instituteur aussi, j'y tiens beaucoup. Parce qu'effectivement, pour moi, c'est le métier par excellence.
Pourquoi ?
Le vrai métier. C'est le métier de la vie. On travaille sur l'être humain, on participe à sa construction. Donc quelque part, c'est quand même, c'est le métier de la vie.
C'est un métier qui vous a donné beaucoup de liberté ?
Il m'a donné beaucoup de liberté, de création bien sûr, et de liberté aussi par rapport aux travaux que je pouvais mener dans ma classe, mais aussi et surtout en dehors de la classe, en liaison avec la classe, de façon à aborder les notions des programmes, donc toutes ces choses-là, d'une autre manière.
Et ensuite, vous devenez directeur d'école.
Et après, directeur d'école, donc à Saint-Vincent-de-Mercus, donc un charmant petit village dans la vallée du Grésivaudan, où là, j'ai eu la chance aussi d'effectuer un certain nombre de rencontres et de me faire des amis, que j'ai toujours d'ailleurs, que je vois toujours de temps en temps.
Pour vous, c'était une suite logique de devenir directeur d'école ? Vous étiez carriériste ?
Non. Quand on entre dans l'enseignement, je crois que on est le contraire d'un carriériste.
On est quoi ?
On évolue, on suit le cours des choses, on s'adapte beaucoup, on fait confiance à ces enfants qu'on a et qu'on nous confie, parce que c'est important. Confier quelque chose et confier des enfants, c'est encore autre chose. C'est pas de la matière, c'est de la matière vivante, c'est autre chose, ce sont des êtres humains.
Et là,
donc,
train est passé.
Il y a une responsabilité. Et là, il y a un train qui passe, c'est vrai. Il y en a un autre qui est passé à Saint-Vincent-de-Mercus, c'est certain. Je suis aussi monté dedans. Il faut faire confiance à la vie. Et c'est ce que me disait à Saint-Vincent-de-Mercus, justement, Aimé Paquet. Aimé Paquet, que j'ai rencontré, et qui a été l'un des premiers médiateurs de la République, et qui me disait toujours, il y a deux choses, il y a la confiance en la vie, et puis il y a l'humilité.
On se retrouve dans quelques instants, Jean Brouillat, on va parler de votre vie, de la patience que vous avez eue et que vous avez encore dans votre vie, et de toutes les activités que vous exercez, et elles sont nombreuses. Les portraits de l'Isère jusqu'à 14h avec mon invité Jean Brouillat, ancien instit, aujourd'hui à la retraite mais un retraité heureux. Vous êtes militant auprès de la MAIF, vous êtes à l'origine de 6 livres, un 7e bientôt, on va en parler dans quelques instants. On écoutait Maxime Le Forestier. Dans votre carrière d'instit, lorsque vous écoutez Maxime Le Forestier, ça évoque des souvenirs pour vous?
Il y en a un qui me vient en mémoire tout de suite, parce que Maxime Le Forestier a participé, donc c'était en 89, au bicentenaire de la Révolution française, et il travaillait sur la ville des Chirolles avec les enfants de la ville des Chirolles, et nous à Saint-Martin-d'Hères, donc à côté, nous avions entrepris un travail également, mais cette fois sur un livre qu'avait écrit donc Michel Etiévant, qui est un écrivain savoyard, et nous avions dit qu'on pouvait le mettre en scène, donc on avait pris il a un pari phénoménal, c'est-à-dire de mettre en scène un bouquin écrit aussi par des enfants de Visile, et joué par 500 enfants. Donc ça faisait du monde sur scène.
Ça fait partie justement des libertés de ce métier d'instit.
Ça fait partie des libertés, ça fait partie de cette confiance qu'on nous fait, ou qu'on nous a faite de toute façon à un moment donné. C'est très important, faire confiance à l'autre, faire confiance.
Ça va de pair avec ce métier?
Tout à fait.
Lorsque vous étiez instit, vous n'étiez qu'instit ou déjà à ce moment-là, vous aviez d'autres activités parascolaires, mais je vais le mettre peut-être entre guillemets?
Non, j'avais effectivement d'autres activités, puisque j'ai été secrétaire général de l'Amicale laïque de Saint-Martin-d'Hères pendant 18 ans, président de l'Office municipal des sports, j'ai été élu aussi au CA national de la Fédération nationale des OMS, enfin bref, donc j'ai eu une vie, une double vie.
Une double vie.
Plusieurs vies, oui.
Ouais. Le sport, c'est important d'ailleurs pour vous, parce que je crois que le sport, c'est un moment privilégié. Vous pensez qu'on apprend beaucoup par le sport, qu'on peut faire passer beaucoup de valeurs?
On peut, et je dirais même on doit. Le sport, c'est une école. C'est l'école de la vie. C'est l'éducation, c'est la citoyenneté, c'est le respect de l'autre, c'est le respect des règles. Et ça, je crois que effectivement, on devrait s'en inspirer peut-être un peu plus souvent.
Vous avez été sportif?
J'ai été sportif, j'étais handballeur, donc gardien de but, dans une modeste équipe, mais enfin bon, au niveau départemental, oui.
C'est quand même pas mal.
Oh, c'est pas non plus le championnat de France.
En 1991, il y a une dizaine d'années, vous prenez votre retraite.
Oui.
Vous la prenez parce qu'il faut la prendre?
Il faut la prendre. Bon, on a un âge limite. Et quand cette échéance arrive, oui, il faut savoir poser la craie.
Mais je crois savoir que vous n'aimez pas partir parce qu'il faut partir. Vous préférez partir avant qu'on vous dise merci?
C'est pour ça que j'ai prolongé d'un an. Donc j'ai géré cette retraite jusque-là. Et effectivement, je crois qu'il vaut mieux décider du moment où il faut partir. Et quand il faut partir, c'est une vieille expérience. Je me souviens de Louis Embobet. Donc c'était une autre époque, grand cycliste, et qui avait abandonné la carrière cycliste en haut du Tourmalet.
Ça vous inspire?
C'est symbolique.
C'était un symbole. On va se retrouver dans quelques instants, on va parler de vos 6 livres, du 7e en préparation, de vos autres activités, notamment auprès de la MAIF, qui vous prend à peu près, la moitié de votre temps.
La moitié du temps, oui.
3 jours par semaine.
Mais c'est voulu, c'est volontaire, donc...
Vous êtes un super actif, un hyper actif. On se retrouve dans quelques instants, à tout de suite. Dans ces eaux-là, vers les années 1990, au moment de partir à la retraite, c'est une autre vie, une nouvelle vie qui s'ouvre à vous, celle d'auteur. Vous vous mettez à écrire des livres. Aujourd'hui, vous en avez 6 à votre actif, un 7e est en route. Elle vous vient quand, cette idée de vouloir écrire des livres?
Je crois que c'est très lointain. C'est très lointain. J'ai eu la chance d'avoir une grand-mère qui écrivait beaucoup.
Oui.
Et peut-être que ça m'a influencé, je ne sais pas. Et puis dans les activités, dans ces autres vies dont je vous parlais tout à l'heure, j'ai eu à intervenir un certain nombre de fois. Donc de préparer des discours, d'exprimer un certain nombre de choses. Et c'est vrai que j'avais, ce qu'on disait à l'époque, un peu la plume relativement facile.
C'est plus par amour pour l'écriture que par un besoin, parce que certaines personnes se mettent à écrire quelquefois pour exorciser quelque chose, vous pas du tout. Vous écrivez d'ailleurs au début des contes, ensuite des romans, des nouvelles aussi.
Mais je crois qu'il y a les deux.
Il y a les deux.
Il y a effectivement l'amour des mots. Donc bon, un mot,
la littérature.
C'est aussi, la littérature, c'est quelque chose de vivant, un mot. On peut jouer avec, on peut, bon. Et puis, il y a aussi, c'est vrai, ce côté thérapie, je crois qu'il faut pas le, il faut pas l'exclure. Il existe. Et dans les écrits, justement, il y a un éventail de possibilités pour évacuer, ou en tout cas pour aider à évacuer un certain nombre de choses.
Notamment douloureuses. Peut-être dans vos romans?
Dans certains romans, oui, c'est clair.
Il y en a un qui vous a marqué plus que l'autre?
Je peux pas dire que... Non, je pense pas, non.
Le tout dernier?
À ce niveau-là, non. Le tout dernier...
S'appelle La Passante?
La Passante, oui.
Avec une couverture qui est en face de nous, alors peut-être pour imager un petit peu ce qu'on a en face de nous pour nos auditeurs, c'est une photo... Avec, je vais peut-être vous laisser l'expliquer, l'imager.
Ben en fait, c'est une photo qui a été prise au Canada, donc en Gaspésie, la ville de Percé, et elle représente le rocher de Percé. Donc, en fait, ce sont deux rochers.
Oui, deux rochers,
deux
bien
rochers
distincts.
Bien distincts. Un passage, évidemment, entre les deux, mais aussi à l'intérieur du rocher le plus important. Et le passage, la passante, je veux dire que on est bien dans deux univers. Et on passe de l'un à l'autre. Et la dualité, c'est aussi quelque chose d'important dans la vie. Et il y a aussi deux sièges qui sont vides, qui sont face à ce Saint-Laurent, donc presque cette mer, hein, qu'est le Saint-Laurent. Et ces deux fauteuils, on peut se dire, bon, moi je vais en occuper un, mais qui va venir occuper l'autre?
Et cette
Une
photo,
passante.
Et cette photo, elle n'a rien de truqué.
Absolument
elle est arrivée
pas.
Par hasard un matin, vous vous levez, elle est devant vous.
Tout à fait, c'est exactement ça.
Et là, qu'est-ce que vous dites? Vous étiez avec votre femme?
Oui, je lui ai dit, prends cette photo, parce que pour moi, elle représentait quelque chose de symbolique. Il y a énormément de symboles dans cette photo.
Vous écriviez déjà ce livre?
Ce livre était déjà en cours d'écriture, mais je ne savais pas à l'époque que j'allais l'utiliser comme couverture.
Et là, pour le coup, ça s'y prête plutôt pas mal.
Absolument.
Ce sont des belles histoires, finalement, que vous racontez?
Belles. Après, c'est au lecteur d'apprécier. Moi, elles me plaisent.
Qu'est-ce qui vous plaît? Peut-être le caractère aussi social qu'il y a dans ces livres?
Oui, il n'y a pas que ça. C'est la relation, en fait. C'est aussi important d'écrire quelque chose pour d'autres qu'on ne connaît pas.
Pour passer le relais?
Pour passer le relais. Être aussi un passeur, quelque part.
Hein. Ouais, vous vous définissez d'ailleurs comme un passeur.
Ah oui, le métier déjà. Le métier d'enseignant, c'est quelque part, un enseignant est un passeur.
Et à travers le livre,
on passe également un certain nombre de choses, un certain nombre d'idées, de symboles. Enfin bon, il faut rester modeste, bien entendu, mais c'est quand même ça.
Et à travers aussi vos activités de militant à la Maïf?
Ben, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on continue, on perpétue une espèce de tradition, donc on est toujours des passeurs de quelque chose, on est toujours des passeurs de mémoire. Et la mémoire, c'est important, non pas pour se retourner et regarder le passé et puis le regretter, mais savoir d'où l'on vient et savoir aussi où il faut mettre les pieds pour savoir où l'on va, c'est important.
On démarre une autre histoire, ce sera votre cas, Jean, pour Ya, d'ici quelques années?
Enfin, à mon avis, une très bonne transition. C'est effectivement une autre histoire, oui.
Vous êtes militant Maïf, ça veut dire quoi?
Ça veut dire que, ben, comme je le disais au début, un jour j'étais sur un quai de gare. Il y a un train qui est passé. Ce train, il y avait des wagons qui devaient sans doute s'appeler citoyenneté, respect, humanisme. Effectivement, je suis monté dedans.
C'est quoi le rôle d'un militant?
Le rôle d'un militant à la Maïf, donc, c'est déjà recevoir des sociétaires, leur expliquer un petit peu d'où vient cette mutuelle qui a été à l'origine, à la création de cette mutuelle. C'était en 1934. Mm-hmm. Donc en fait une poignée d'instituteurs qui se sont réunis tout simplement par opposition un petit peu au contexte économico-politico-social de l'époque et qui se sont dit on n'est pas plus bête que les autres, on va se regrouper et on va effectivement monter notre assurance. Voilà. Donc ça s'est fait.
Votre travail au quotidien,
représente
5 demi-journées par semaine.
C'est ça, c'est recevoir des demandes de partenariat, par exemple, pour des associations. Donc ouais. Je m'occupe plus particulièrement du secteur associatif. de visiter ces associations, de rencontrer les dirigeants, de rencontrer aussi aujourd'hui les décideurs politiques ou administratifs locaux, hein, que ce soit au conseil général, que ce soit la ville de Grenoble, que ce soit les villes d'agglomération, que ce soit aussi les politiques, députés, etc. Donc c'est un petit peu tout ça aujourd'hui. Avec, bien entendu, le militant, c'est aussi celui qui va donner son avis sur un dossier, géré techniquement, parce que le militant n'est pas un connaisseur, n'est pas un spécialiste de la technique assurance, c'est pas son métier. Par contre, il va apporter un regard différent par rapport au regard technique pur, et peut-être trouver des solutions sur, quelquefois, des problèmes.
On peut dire que vous continuez votre métier même après.
On continue ce métier parce qu'il y a beaucoup aussi de pédagogie,
oui,
pour expliquer
beaucoup,
voilà, les
choses. Ça,
et puis on est toujours, encore une fois, dans un passage, de relais, un passage d'information.
Ouais. C'est d'ailleurs un des maîtres mots de votre vie. Dans tout ça, on n'a pas parlé d'une chose et je voudrais qu'on termine avec ça. Vous aidez énormément beaucoup de personnes. Votre femme a une expression qu'elle utilise assez souvent. Elle vous dit « tu me fatigues ». Vous allez faire quoi pour votre femme?
Je vais peut-être lui acheter un fauteuil ou un transat pour qu'elle puisse se reposer en me regardant m'activer. Non, c'est vrai que j'ai ce défaut de ne pas rester en place très longtemps.
C'est une qualité peut-être?
Ça peut aussi être une qualité, mais il faut s'en méfier quand même.
On va terminer avec cette phrase qui est la vôtre et je crois qu'elle résume un petit peu votre parcours. On est sur un quai de gare, il y a un train qui passe, on monte dans le train, je ne sais pas pourquoi j'ai pris celui-là, votre prochain train, vous allez peut-être le prendre dans quelques jours.
Peut-être. Pour aller où?
On ne sait pas.
Train du hasard.
Le train du hasard. Les trains vous ont tout le temps porté au bon endroit finalement.
À condition de savoir en descendre aussi.
Oui, bah oui. Vous allez en descendre bientôt?
Non, je crois pas.
Non, vous êtes trop bien dans votre train.
Ouais.
Merci beaucoup Jean Brouillat d'avoir été notre invité cet après-midi. Bon vent, à très bientôt.
Merci à vous.
Et merci de nous avoir fait le plaisir d'être avec nous cet après-midi. À très bientôt Jean Brouillat.